Bon, et ben, on va commencer en attendant Hélène qui en, Hélène Larbet qui est l'affichiste du festival.
Mmh, donc, merveilleux.
Ouais, voilà, on ne s'entend pas beaucoup. Si vous intervenez à voix haute quand je parle, ça va être compliqué. D'accord ? Merci beaucoup. Donc, Hélène est l'affichiste du festival et donc elle doit être un petit peu occupée et un petit peu en dédicace sur son étrange cabaret. J'espère qu'elle va nous rejoindre par la suite. Voilà les auteurs présents. Nous n'avons pas de micro, nous n'avons pas d'électricité. Donc on va faire au mieux, j'espère que vous nous entendrez bien. Et je vais commencer par demander à chacun d'entre eux qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent sur une table ronde pour parler des chats, des minets, des félins. Parce que moi-même, je me pose la question. Donc avant de choisir un angle d'attaque pour cette table ronde, dites-nous, Cindy, pourquoi vous êtes concernée par les chats. On peut, si vous voulez, commencer tout simplement par l'idée que, est-ce que en tant qu'auteur, vous avez, comme le veut l'image d'Épinal, ça tombe bien, un chat à côté de vous, un chat sur votre ordinateur, un chat qui ne vous appartient pas, mais qui vous pourrit la vie quand même. Voilà. Quel est votre rapport avec le félin dans la vraie vie ?
Je suis coupable sur toute la ligne concernant le cliché de l'écrivain avec son chat soit sur les genoux, soit sur le clavier de l'ordinateur. Généralement, c'est sur le clavier quand tu veux écrire, tu vois. Oui, je suis absolument coupable. J'ai un gros chat. Donc, voilà. Sur ce, je suppose qu'un espion des Imaginales a su mon attachement pour les félins et pour ma féline en particulier, qui m'a dénoncé que je me suis retrouvée ici. Absolument.
Vous n'êtes pas tout à fait honnête, Cindy Wilder.
Bravo!
La magie des chats.
On a fait des micros, du coup.
Oui, on a fait des micros. Ouais. Tout marche.
Alors, attends,
c'est vrai que maintenant je suis avec le meilleur. Ah! On n'aurait peut-être pas dû mettre tout en même temps.
Ça s'en va et ça revient.
On va les garder à portée de main, on sait jamais.
Donc, Cindy, je crois que vous n'êtes pas complètement honnête parce que, quand même, dans votre livre Les autres passeurs, même si ce ne sont pas des chats, il y a des félins qui ont un petit rôle à jouer.
C'est vrai. En même temps, c'est vrai qu'il y a des chats, parce qu'en fait, les autres passeurs sont...
On vient juste de reperdre les micros, donc tout va bien.
Pardon pour le retard.
T'inquiète.
Non, c'est vrai que les autres passeurs, bon, pour une raison particulière que peut-être je vous laisserai deviner, pour ne pas trop spoiler, sont effectivement divisées en maisons, que chacune a son animal un peu totem, et que c'est vrai qu'il y a une maison du chat. Donc j'avoue, je ne suis pas tout à fait honnête sur ce coup-là.
Et vous ?
Alors, moi, j'ai un peu la folie des grandeurs, parce que j'ai un élevage de chats.
Ah.
Et j'ai apporté une race qui était inconnue en France il y a 4 ans, et je l'ai fait reconnaître au livre officiel des origines félines.
Alors là, je sais pourquoi moi, je suis la modératrice de cette table, parce que ma mère a un élevage de chats aussi.
Ah, un hobby passionnant, mais...
C'est quoi cette race ?
Qui ruine. Alors, c'est le Toyger, un chat qui est... qui a été pensé, enfin après, bon... Il y a toujours des questions éthiques par rapport à l'élevage qu'on peut se poser. Que moi-même, je me pose, parce que je me remets en question. Il faut savoir se remettre en question. On est à la recherche d'un certain phénotype. Il doit ressembler à un minitype.
Profite des 30 secondes.
Oui, voilà. Je profite de... Ouais, voilà. Ah, allô ? Oui ? Non ? Oui ? Non ? Non, voilà.
Donc, effectivement, cette table ronde s'est imposée tout naturellement, d'autant plus que dans l'œil de Tchak, il y a beaucoup de références au monde animal. Les changements de point de vue tout au long du roman sont effectués par le biais des yeux des animaux pour donner une impression de travelling cinématographique. Je vis avec, en ce moment, 12 chats, 17 chatons, j'ai un perroquet gris du Gabon que j'ai récupéré, 4 chiens adoptés en refuge, 3 lapins dont 2 en liberté dans le jardin, et un petit rat, Justin le Malin. Voilà.
Ah. Bonjour l'Arche de Noé.
Oui. D'ailleurs, ça a été compliqué pour moi de venir, parce qu'il fallait trouver quelqu'un en qui j'avais confiance pour surveiller tout mon zoo.
Un sacrifié qui
non, sera peut-être mangé par les chats. C'est gentiment proposé et je le remercie.
Pour vous, Sylvie, on va continuer le petit tour de table. Pour vous, Sylvie, quelle est la place des chats et ou dans votre vie et dans vos écrits, ou dans les deux.
Alors moi j'ai pas de chat chez moi, en tout cas pas depuis plusieurs années, parce que je vis en appartement et puis que j'ai déjà des enfants, donc je trouve que ma maison est suffisamment remplie. Mais par contre, j'adore mettre des chats dans des histoires, et je l'ai fait plusieurs fois, parce que je crois que le chat parle à notre imaginaire d'une manière particulière, et que bon, moi j'écris de la science-fiction, et j'avais envie de parler d'intelligence artificielle, donc on en parlera peut-être après de la nouvelle. Mais disons que j'avais besoin de voir comment on pouvait avoir une projection affective sur une intelligence artificielle, et il m'a paru logique de l'incarner sous la forme d'un chat, parce que ça ouvre plein de possibilités et ça marche super bien.
On va y revenir effectivement. Hélène, pour vous, est-ce que vous êtes faites partie de ceux qui ont un chat sur les genoux pour dessiner, pour écrire, un chat qui prend beaucoup de place dans la vie, ou des chats dans vos dessins et dans vos histoires, et ou les deux, encore une fois.
Ou même les trois, voilà, dans les histoires, dans les dessins et dans la vie aussi. Donc effectivement, moi j'ai grandi avec une douzaine de chats autour de moi. Maintenant que voilà, je vis en dehors de la maison familiale, j'en ai plus que deux, c'est déjà pas mal. Et oui, on retrouve toujours, je crois, dans mes livres, il y a toujours au moins une histoire avec un chat ou un dessin avec des chats. Et puis, bah, dans la fiche de cette année, je crois que c'est assez visible. Nous avons un gros félin qui, alors, certains disent chat, d'autres lynx, d'autres puma, et c'est bien que ça soit un peu les trois à la fois, je crois.
Puma.
Très bien.
Non,
alors moi, hier, quand on a parlé de cette table ronde, on m'a demandé, mais qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas me poser comme question, c'est quoi comme sujet. J'ai dit, on pourrait faire un truc un petit peu à la amateur de chat anonyme. Bonjour, je m'appelle Fabien, j'ai un chat.
Non, on va éviter la thérapie de groupe.
Pourtant, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seraient concernés.
Mais c'est enregistré alors. Il y a un chat dans l'appartement. Officiellement, c'est, enfin si, d'ailleurs officiellement c'est le mien, mais d'après les papiers c'est le mien. Il ne rentre pas dans mon atelier quand je travaille, et en revanche quand je ne suis pas là, il y rentre, parce que je trouve des petits bouts de câbles ou de choses comme ça qui sont bachouillés. Or il n'y a qu'un animal qui fait ça dans la maison. Mais sinon non, il va squatter le clavier de l'autre auteur de la maison, donc Charlotte. Donc le bureau, le fauteuil, bref, il squatte. Et je pense que je suis plus là par rapport au livre Cœur sauvage, où il y a un tigre, des tigres, et particulièrement un tigre de l'amour qui est en lien avec le personnage principal.
Alors, on recommence dans ce sens-là, le tigre.
Et donc voilà, ce personnage de femme d'un chat
assez féline et très indépendante dans son caractère et son comportement présent dans le livre. Et effectivement, j'ai essayé de lui donner un caractère très féline, je pense, dans beaucoup de ses attitudes et ses émotions aussi. Je pense qu'il nous semble à tous assez classique de penser au chat dans les univers fantasy comme le familier de la sorcière, comme celui qui détient les pouvoirs. Je pense à certains auteurs qui sont pas tout à fait traduits, comme Margot qui crée des chats lesquels les humains ont des liens télépathiques, le chat permettant d'obtenir la vérité des gens qui regardent dans les yeux. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé un live contest avec ça, un concours de clignage d'yeux. Vous avez perdu d'office. Même Chuck Norris ne reste pas normalement dans le contexte. C'est intéressant que vous parliez du fait que vous réussissez à traiter le chat en dehors de la fantasy, mais plutôt bien dans un univers de science-fiction. Alors, en fait, il y a plein d'auteurs de science-fiction qui ont intégré des chats dans leurs histoires aussi. C'est quand même le compagnon le plus familier, le plus aimé. Tyler Hyland qui parle beaucoup de chats. Il y a la femme chat qui s'appelle Tonelle dans Les Seigneurs de l'Instrumentalité de Cordelé de Smith. Si vous l'avez lu, je suis sûr que vous ne l'avez pas oublié. Moi, je l'ai pris sous un autre angle parce que j'avais envie de parler donc, des intelligences artificielles. Et je ne sais pas si tu souhaites que je raconte un peu tout de suite l'histoire. En fait, j'avais mis en scène un environnement domotique extrêmement sophistiqué. Dans une maison, ça a l'air d'être la norme, où la porte a une certaine intelligence, le réfrigérateur aussi, le partie du roman de Renard. Et dans donc, cette référence médiévale, il y a forcément des personnages, personnages phares que j'ai repris et qui, bien entendu, dans le roman original, étaient sous la forme d'animaux. Tout simplement pourquoi ? Parce que c'est aussi en partie un ouvrage satirique qui critiquait la société, critiquait, il faisait, bah, il se moquait des normes, du droit, des puissants, des clergés, des bourgeois. Et à mon avis, les auteurs n'avaient pas trop envie qu'on découvre leur identité réelle. Hein. Donc ils se sont dit, bah, non seulement on va être anonyme, mais en plus, on va utiliser ce qui s'est souvent fait d'ailleurs par la suite, la satire animale. Donc, au lieu de mettre des personnages humains dans ce roman, bon, qui est en fait une série de petites histoires, bien sûr, le personnage de Renard, qui incarne à merveille, je veux dire, l'homme de base à cette époque, s'en tire toujours avec force ruse et tour qui ne sont pas toujours très, très gentils. Hein. Voilà donc ces personnages, donc des puissants, donc, du moins ceux qui devaient être respectés à l'époque, surtout sous la forme d'animaux, qui est en fait une grosse moquerie en soi. Et bien entendu, il y a un personnage de chat qui se fait berner comme les autres, il se fait avoir, mais dans les grandes largeurs, bien sûr, par le renard. Et quand je me suis inspiré donc, de ce roman renard, donc pour les autres passeurs, ça semblait logique, bien entendu, d'avoir un chat. Bien entendu, je suis certaine. Ça m'a été soufflé par ma muse, franchement ma muse, qui a un peu schizophrène sur les bords, et qui, dans mon esprit, je la représente toujours sous forme d'un chat, on va savoir pourquoi. C'est parce qu'elle se fait, donc chez vous. Il y a aussi des filles d'une taille un peu plus conséquente qui ressembleraient un peu plus à ceux de Fabien.
Ouais.
C'est juste qu'il faut un petit peu frais en ceux-là. Enfin, un petit peu plus de 250 kilos, et je ne suis pas certain qu'il soit au moins de l'amour, tu vois. Est-ce que pour vous, le chat, c'est un animal qui a un statut particulier par son côté ambivalent? C'est-à-dire qu'il y a plein, enfin, quand on pense au chien, à part chez Stéphane qui est dans le futur, on pense rarement à un chien très très maléfique. On pense plutôt à un bon vieux Golden Driver, bien sympathique, un petit chien qui est super rapide. Voilà. Je suis Disney, donc ça c'est des fixes. Évidemment, on pense tous à des fixes. chat-chien, comme vous disiez, les sous-nativs. Il y en a d'autres, dans race comme ça, qui sont un petit peu des chat-chiens. Mais pour moi, j'ai vu des chats avec des malades, qui étaient mourants, juste parce que la personne décède. Donc, voilà, des histoires qu'on entend parfois avec des chats qui parcourent des kilomètres pour retrouver leur maître ou leur maîtresse après des déménagements.
J'étais en mode. Ce qui est terrible, hein, parce qu'on pourrait avoir une vision, c'est un escargot, c'est aussi un être vivant et tout ça. Mais cet enfant en train de caresser vraiment l'escargot avec les yeux et les antennes de l'escargot qui cherchait la caresse, c'était fascinant, vraiment. Donc je pense que si on peut arriver à ça avec un escargot, avec une souris, ça peut être faisable.
Oui, non, mais la question, c'est le retour qu'on a de la part de l'animal. Alors l'escargot, on sent son bien-être physique, effectivement, parce qu'il a. Et au lieu de rentrer ses yeux comme quand il est menacé, il les déplie, donc il se sent en sécurité. Mais à part le fait qu'il n'est pas angoissé, il ne communique pas grand-chose. Je pense que le rat doit communiquer beaucoup plus, mais aucun animal ne communique aussi bien que le chat. Le chat, il est puissamment expressif entre son poil, sa queue, ses yeux, ses moustaches. Enfin, il a une quantité d'organes pour exprimer des choses. Et je crois que c'est pour ça qu'il nous touche autant.
Est-ce qu'on ne serait pas, peut-être que Fabien va pouvoir nous donner des infos, mais est-ce qu'on ne serait pas forcé parfois un peu en compétition, en tout cas, on ne réussirait pas à convaincre sur ce sujet-là les gens qui sont fans des chevaux ou les gens qui sont fans des loups parce que y a d'autres animaux avec lesquels on a moins de... c'est moins facile d'avoir un cheval dans un appartement.
Honnête, Finlande.
Je rentre pas là-dedans.
Bon, voilà, donc le cheval en appartement, c'est moi. Cela dit, moi j'ai déjà vu des maisons de gens très très aisés où il y avait une cuisine avec une vitre dans la cuisine qui donnait directement sur l'écurie et les chevaux regardaient pendant que vous faisiez la vaisselle. Enfin, c'est
un concept.
Donc le cheval dans la maison, c'est pas forcément facile. Le loup dans la maison non plus. Mais les gens qui fréquentent ces animaux-là ont un peu le même genre de discours qu'on a sur le chat entre nous là. Donc est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce qu'on n'est pas, en tant qu'humain, on n'est pas très à l'écoute ou pas très ouvert, ou on n'a pas le temps, ou on n'a pas la possibilité? Est-ce que ce n'est pas plus une question de, d'habitude?
J'ai lu un article scientifique, je ne pourrais plus retrouver la trace, récemment, qui disait que les chats se sont proposés à être apprivoisés, et que c'est comme ça qu'ils seraient maintenant dans nos maisons. Mais je pense foncièrement que le chat, il est accessible parce qu'il est chez nous, qu'après, n'importe quel animal, il suffit de se mettre à son niveau de communication. Et à partir de là, il y a un retour ou il n'y a pas de retour, mais c'est aussi une projection humaine d'attendre un retour formulé d'une façon qui n'est peut-être pas forcément dans notre langage, mais qui est dans le langage de l'animal en question. Et à partir de là, ça dépend ce qu'on attend et ça dépend ce qu'en face il attend de nous. Et c'est pas forcément donné à chaque fois, comme nous entre êtres humains. On s'entend pas, je pense, on communique pas et on a les mêmes barrières, mais bon, on vit ensemble, on a plus de contacts et on a les mêmes langages, donc à partir de là, et encore, même des fois au niveau du langage, que ce soit la langue ou corporelle ou autre, on a nos limites, mais...
Bah moi, je pense que je communique mieux avec mon chat qu'avec un japonais qui ne parlerait que japonais.
C'est pas dit, parce que avec, tu peux dessiner entre humains, tu peux parler avec les mains, tu peux... Moi, n'importe où je vais, j'arrive à communiquer, même si je connais pas la langue, on arrive à se débrouiller. Après, avec les chats, c'est pas forcément...
est-ce que vous pourriez vivre sans chat, ceux qui en ont... Bah, vous avez déjà répondu... Mais pour les autres, non, non plus. Non.
Moi, oui.
Moi aussi, j'en ai plein mon imaginaire, donc ils sont très proches, ils font partie de moi, en fait.
Ouais. Moi, les animaux, ils vivent leur vie, donc soit là, soit pas là. Ouais.
Et est-ce que dans ce cadre, est-ce que vous voyez dans le futur toujours le même positionnement de, puisqu'on est dans l'imaginaire et pas que en fantaisie, est-ce que dans un futur de science-fiction, vous voyez avec le... C'est ce que Sylvie évoquait. Est-ce que vous voyez avec le même rapport, est-ce qu'on pourra continuer à avoir ces rapports un peu particuliers avec des animaux familiers, ou est-ce que les tensions dont on parlait l'année dernière ici, de manque d'air, manque d'eau, raréfaction des moyens, difficultés de la vie, est-ce que ça ne va pas nous emmener vers moins d'animaux, moins de présence de familiers? Je suis dans la dystopie
la plus totale.
Ceci dit, c'est les espèces sauvages qui sont les plus menacées. Ouais, justement, vrai. Le chat, qui est une créature extrêmement intelligente, il y a l'intelligence des individus et l'intelligence de l'espèce. Il est probable que l'intelligence de l'espèce soit très très élevée, parce que c'était probablement la meilleure stratégie de survie que de s'entendre aussi bien avec les humains. Et moi, je suis convaincue que les deux espèces qu'on va protéger et qui dont la survie est assurée, c'est les chiens et les chats. Et je m'inquiète pour beaucoup d'autres. Mais
surtout qu'il y en a qui ont déjà disparu. Si on parle que des félins là.
Et ceux qui font 250 kilos, ils sont pas très en forme.
Encore, je crois que c'est le puma qui.
C'est ça. Le mérite du Nord, tout à fait.
Alors pourtant on sait que même les gros félins sont capables de faire d'essayer de taper l'incruste comme les chats, parce que vous avez peut-être vu cette photo d'un lion qui est dans une brouette, un peu comme un chat est dans un carton. et qui prouve que dans les eaux et dans les...
sur Internet.
Mais dans les eaux, et surtout à regarder des chats. Mais dans les eaux et dans les endroits où il y a des animaux, des félins en captivité, le rapport au carton, qu'on connaît tous si on a un chat, le rapport au carton est exactement le même. Et ça, c'est je trouve ça personnellement fascinant de voir que, quelle que soit la taille du félidé, on a le même. On pourrait penser que, qu'à terme, on puisse aussi bien, je dirais, apprivoiser un tigre de l'amour qu'un chat.
Alors, le problème, c'est que le chat, il a son territoire, il va avoir son carton, sa maison, son appartement. Le tigre, il a aussi son territoire, il est beaucoup plus grand. Et accessoirement, je pense que si l'homme arrête d'envahir aussi le territoire de l'autre, on évitera certaines extinctions, on voudra la paix aux certains animaux, qui vivront bien, et puis on pourra peut-être remettre en place une logique de proie-prédateur plus naturelle. Je pense, donc là, on parle de tigre, mais les loups, c'est pareil. Ce grand débat sur les loups et notamment les bergers, ce genre de choses, pour moi il n'y a pas de débat, parce que plus on repousse les limites sur leur territoire, plus eux ils ont besoin de se nourrir aussi, et bien qu'ils ne fassent pas tant d'attaques qu'on dit, on empiète sur leur domaine. L'humain lui-même, il a son domaine et on voit bien ce que, à quoi ça mène avec ses guerres ou autres. Donc, il faut respecter le domaine de l'autre et puis on ira mieux.
Il y a une différence, il me semble, enfin, c'est vous qui pourrez dire, mais le chat, il est capable de partager son territoire avec d'autres chats,
il y a quelques révélations récentes qui ont prouvé que c'était un mythe. En fait, nous, humains, on croit que ça se passe très bien.
Ah bon?
Mais que non, mais c'est vrai, il y a des scientifiques.
Non, mais après,
il y a beaucoup de stress pour la vie.
Il y a des événements ponctuels qui prouvent qu'il y a des partages.
Il y a des dominants, mais.
Voilà. Mais après, tant qu'une hiérarchie qui se fait naturelle, un lion et une souris.
Oui, c'est Viva.
Non, justement, c'était pour parler de cohabitation.
Ouais. C'est pas si évident que ça, finalement.
Alors, chez moi, tout le monde cohabite très bien, mais après, à savoir vraiment quel est le niveau de bien-être des uns et des autres, c'est un peu un questionnement.
Ouais. Mais tout le monde cohabite très bien autour de toi.
Entre eux aussi.
Ou entre eux.
Aucun problème interespèce avec les 5 ou 6 espèces que j'ai.
Bon, est-ce que vous pensez que l'apport des chats est aussi qu'on leur apporte autant qu'ils nous apportent, ou c'est vraiment un animal qui donne plus qu'on imagine?
Justement, puisque tu évoquais une vidéo, à mon tour un petit peu d'en évoquer une qui m'avait un petit peu scotché sur place quand je l'ai découvert, donc aussi sur le net. C'est un peu aussi un petit peu pop. Je pense que d'ailleurs que peut-être certaines dans l'assistance ont dû le voir. C'est cette vidéo, à mon avis, filmée d'une caméra de surveillance. Elle montre une scène banale, ça veut dire un petit garçon qui est sur son tricycle, qui est en train de jouer tout simplement. Et là, en fait, on voit un quart de seconde, un chien errant, à mon avis, se balade tout simplement et en fait, sans vraiment d'agression visible, se jette sur le petit garçon et commence à l'entraîner. Et alors, le truc le plus remarquable chez cette vidéo, c'est qu'on voit le chat qui part, mais d'une bondif de la maison. Il se jette sur le chien pour qu'il lâche l'enfant. Ça marche. Je vous jure que ça marche. Ça n'a pas été truqué, à mon avis. Et je pense en fait que cette vidéo montre bien qu'on ne soupçonne pas toujours ce qu'on peut apporter en fait à l'animal avec lequel on doit partager aussi nos maisons.
Bon. Est-ce que quelqu'un a une question sur les chats, sur leur roman, sur le... Je vous écoute.
Bonjour.
Alors, il va falloir parler un peu fort. Hein.
Oui, bonjour. Alors ça suppose que vous sachiez ce que c'est le toxoplasma gondii. Alors est-ce que vous savez ce que c'est?
Est-ce que ça a un rapport avec la toxoplasmose?
Indirectement, oui. C'est celui qui est... c'est un hôte, justement, qui vit dans les chats, qui ne savent exclusivement se reproduire que dans les chats. Enfin, on va l'imaginer comme un petit ver, on va dire. Et ça peut interagir sur les autres espèces, dont l'espèce humaine, on va dire. Et il n'est absolument pas dangereux pour l'être humain. Il se loge dans l'hypophyse, et qui est le centre des hormones. Et il influence le comportement humain vis-à-vis de son regard sur les espèces félines, en fait.
C'est ce qui permet aux rats d'avoir moins peur du chat.
Voilà. Et les rats infectés n'ont pas peur des chats et se jettent dans la gueule des chats, qui sont très contents parce qu'ils mangent quasiment gratuitement. Voilà. Et donc, il est prouvé que la quasi-totalité des êtres humains qui fréquentent les chats sont infectés par cet hôte. Et influence le comportement qu'on a à l'égard du chat et l'amour qu'on lui porte.
C'est voilà. Ce qui, paraît-il, explique pourquoi les lolcats ont autant de succès sur le net.
C'est une idée géniale pour la science-fiction, ça ne fait pas quelque chose.
Ça se propage juste sur Internet.
C'est ça, parce que ça fait...
Donc, toxoplasma, je vais chercher...
Toxoplasma gondii.
Je pense que j'aurai une nouvelle SF pour la prochaine séance sur les chats.
Alors, excusez-moi.
Par rapport à ça, est-ce que vous pensez que vous auriez tout à fait le même comportement vis-à-vis de vos félins et dans votre écriture aussi, si finalement on vous enlevait cette part d'amour qui est incitée par un autre, quoi?
Suppose qu'il est incité par un autre.
Oui, c'est plus ou moins prouvé quand même.
Oui, mais déjà, supposer que tout l'amour qu'on leur porte est suscité par ce ver. Ouais. Je ne suis pas persuadée.
Par la modification de l'hypophyse. Et
oui, mais
la modification, voilà,
incidemment provoquée par un parasite. c'est quand même c'est un questionnement philosophique, parce que après, qu'est-ce que l'amour, etc., etc.
Ça, c'est un questionnement intéressant. Hein.
Alors, je vais juste vous interrompre.
Je suis infectée.
J'ai eu deux conférences. Là, ça fait deux conférences à la suite. Et j'en ai une après. Si je pouvais vous laisser bien juste 5 minutes pour avoir une petite pause. Je suis vraiment désolée. Afin d'être efficace la prochaine heure.
On va te couvrir.
On va de toute façon. C'est mon cas aussi. Donc, on va de toute façon. Si vous le voulez bien, une fois que vous aurez répondu à cette question, conclure. Mais bah, bien sûr.
C'est une super question. Donc, si jamais je découvre que je suis infectée et qu'effectivement on arrive à me le retirer, je te promets que je t'enverrai la réponse.
C'est un hôte qui meurt, il ne peut pas se reproduire en nous, mais le chat nous réinfecte systématiquement, on vit à ses côtés.
Après, je pense que c'est spécifique au chat.
Oui.
Il y a d'autres animaux qu'on aime, qui ne sont pas forcément, je pense pas, affectés par ça, et pour qui on a de l'affection. Donc peut-être que d'une manière générale, si on aime les animaux et qu'on a une affection pour beaucoup d'animaux, on l'aurait sans doute pour le chat. Je pense que ça va...
C'est presque ce que j'allais dire, parce que... En fait, moi j'ai beaucoup d'affection pour les animaux en général, et en l'occurrence, le pouvoir magique du ronron du chat, moi ça m'exaspère.
Il est immunisé.
Peut-être que c'est ça.
C'est ça.
Merci à tous.